sur un autre registre, moins humoristique, mais tout aussi...
Humoristique,
oui. Dans la manière dont tu nous l'as présenté, bien sûr, qui était très vivante, mais toujours avec cette même idée de notre contribution volontaire, de plus en plus consciente, à nourrir cet immense big data qui ensuite va digérer ces informations et va les fournir à tous ceux qui vont payer pour. Voilà ce que ça donne, en fait, si je me sens pas très bien et que je vais aller voir le médecin. On est tous dans l'idée que voilà, la consultation, c'est un dialogue entre un individu qui est supposé avoir un certain nombre de connaissances et une personne qui exprime, sous une forme ou sous une autre, une souffrance, un besoin. Et donc, le monde d'aujourd'hui est en train de simplifier tout cela, c'est-à-dire que on possède ou on peut acheter pour pas cher, on l'a vu, tout un tas d'outils qui vont déjà nous renseigner sur nous-mêmes et puis renseigner cette espèce d'immense trou noir dans lequel, après digestion, celui ou celle à qui on s'adresse va déjà avoir toutes ces informations. Alors, la médecine connectée aujourd'hui, je poursuis ce que Ima vient de nous dire, ce sont des bracelets, des balances, des brosses à dents, des couches bébés qui sont toutes connectées.
Il y a la même balance.
Hein. J'ai la même balance que toi, oui. C'est, voilà, c'est le hasard. Mais enfin, c'est Wifing, société bien française avec un nom pareil, qui vend ça, pas cher du tout. Et donc, ne serait-ce que ces quatre outils de la vie quotidienne, si j'ose dire, sont tous reliés les uns avec les autres. Votre iPhone est l'espèce de plateforme centrale sur laquelle vous pouvez, de n'importe où, vous connecter à ces objets, ou bien ces objets peuvent vous envoyer sur votre plateforme tous les renseignements dont vous avez besoin. On n'arrive pas à lire, mais je vous le résume. Bon, ça, c'est Orange qui publie ça. Donc, Orange est une firme très active en France sur... les objets de santé, ce n'est pas qu'une marque de téléphone, puisque 60% de tous les objets connectés en France ont un lien avec la santé. Donc c'est le plus gros marché. Des lunettes, enfin plutôt des verres de contact qui permettent de mesurer votre glycémie, le taux de sucre, et donc le moyen de surveillance des diabétiques, les verres de contact. Au patch que vous vous mettez qui mesure à la fois votre température, votre rythme cardiaque, vos réactions au stress, aux chaussettes qui, on l'a vu tout à l'heure, sont capables de mesurer le nombre de pas que vous faites par jour comme votre rythme cardiaque. Vous avez tout un tas de choses de la vie quotidienne qui aujourd'hui sont connectées et de plus en plus, et qui vont fournir une masse d'informations que vous ignorez même vous-même, mais qui vont aller nourrir votre iPhone et donc le big data. Alors, pour nous regarder ça... Ah oui, bon, alors, voilà, on peut pas... Tant pis, j'avais des petits films à vous passer, mais ça ne marche pas. Bon, donc, le petit film que je voulais vous passer là, c'est 2 minutes de AXA qui raconte qu'est-ce que c'est la journée, comme Ima l'a fait, mais sur le plan de l'enregistrement des données du corps. Pourquoi ? Parce que AXA a donc des millions de gens qui envoient des informations, crée une personne idéale pour sa santé, et donc rembourse depuis l'année dernière la prime d'assurance maladie jusqu'à 100 euros à partir du moment où vous vous rapprochez de ce modèle. Le concept s'appelle Quantify Self, c'est-à-dire que vous contribuez à une meilleure connaissance de votre propre corps Ceci étant vu forcément de manière positive, alors que, bien entendu, il y a des normes. Et quand vous vous éloignez de la norme, c'est une source d'anxiété très importante et ça agit évidemment sur vos comportements. Aux États-Unis, donc il y a 2 ans, 2/3 des Américains mesuraient d'une manière ou d'une autre au moins un indicateur de leur santé. Donc maintenant, avec tous ces outils connectés, c'est d'une immense simplicité. Vous n'avez même plus besoin de le faire. Vous n'avez juste qu'à allumer votre iPhone et à le regarder. Le marché M-Santé, 60% en France de tous les objets connectés, se développe dans le monde. Et puis, vous voyez que ce sont les deux plus grands, ou deux parmi les plus grands majors d'Internet qui investissent considérablement dans ce domaine. Quand vous ouvrez votre email, je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de le faire, regardez appli dans vos applis A, bleu, santé. Vous avez très exactement hier 149 applications qui ont trait à la santé. J'ai fait le même exercice hier avec Google Play. Il y en avait 143, donc ils sont à égalité. Ça fait quand même 300 applis qui, en gros, vous proposent de vous mesurer vous-même et de vous sentir forcément mieux puisque vous savez exactement ce que vous avez. Alors, il y a une autre manière de voir, alors on est entre utopie et dystopie, qui peut améliorer aussi. C'est vrai que de savoir son rythme cardiaque, je ne peux pas, en tant que médecin, comprendre forcément quelle est la plus-value de le savoir. Mais par contre, de pouvoir suivre, alors comme on fait à Genève, il y a 742 personnes qui ont un pacemaker relié à l'ordinateur central du CHU. Et donc, cet ordinateur central leur règle en permanence, jour et nuit, leur rythme cardiaque, s'ils ont des extrasystoles, s'ils ont des arythmies, c'est l'ordinateur qui les règle. Petite hypothèse, le gros bouton rouge qui est sur l'ordinateur, là, vous appuyez dessus, et puis vous avez 742 cœurs qui s'arrêtent. Bon, ce n'est pas encore la réalité, parce qu'ils ne vont pas s'arrêter, ils vont continuer à être en arythmie. Mais vous pouvez, par contre, agir sur l'arythmie en leur déclenchant des tachycardies énormes, au contraire, en ralentissant leur cœur. Vous avez ce moyen d'agir, n'importe quel hacker peut le faire. Et donc, il y a cet exemple qui a été cité dans plusieurs journaux français de, c'est pas Y-Thing, mais c'est une autre société du même type, qui a vendu sur le marché américain des perfusions contrôlables par un ordinateur central et un hacker bienveillant est rentré dans l'ordinateur central et a modifié 400 000 perfusions. Alors, bien sûr, grande excuse de la part de la société. On ne savait pas que c'était possible. Bien sûr, on va vous rembourser, etc., etc. Mais c'est que vous puissiez mesurer que des choses qui sont finalement très positives, qu'un ordinateur central puisse surveiller une perfusion à domicile et augmenter le débit ou rajouter un produit, c'est une simplification très, 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 très importante, comme le pilulier intelligent. Vous allez au cinéma, vous avez même mis en avion pour que ça ne sonne pas, mais quand même, vous allez recevoir un SMS que c'est l'heure de prendre votre comprimé. Alors, ça paraît un peu surréaliste, et en même temps, l'IFOP a fait, ici en France, une enquête donc, il y a 2 ans. Donc déjà, à cette époque, 11% des Français utilisaient un objet de santé connecté et 12% envisageaient de l'avoir dans 3 ans, c'est-à-dire aujourd'hui. Ça veut dire quand même qu'il y a 1 Français sur 5 aujourd'hui qui rentre dans ce cadre de « j'ai envie de savoir pour ma santé et je vais donc m'acheter un objet connecté de santé ». Alors, ça c'est encore du jeu, même si c'est du jeu qui commence à devenir sérieux. Mais ça, c'est plus tellement du jeu. Donc, vous connaissez l'histoire, j'imagine, de Ben Habib à Grenoble, ce neurochirurgien qui a implanté, qui a mis le premier des implants dans le cerveau pour le traitement du Parkinson. Ça a été une réussite tout à fait remarquable, puisqu'il a changé la vie aujourd'hui de 40 000 personnes. Sauf qu'il vient de recevoir, ce cher Ben Habib, beaucoup d'argent pour pas simplement tenter de réguler les syndromes extrapyramidaux, mais aussi pour travailler sur la mémoire et l'humeur. Alors, Benhabib, c'est un artisan, c'est bien à la française, parce que qu'a fait l'Union européenne ? Elle a développé, c'est considéré comme le projet prioritaire pour les 5 ans à venir, le Human Brain Project. Qu'est-ce que c'est le Human Brain Project ? C'est géré en Suisse, à Genève et à Lausanne. C'est, on va construire un super ordinateur qui va représenter les fonctions du cerveau, et grâce à cet ordinateur, on va étudier comment le cerveau fonctionne. En utilisant les données génétiques, les données biologiques et les mécanismes de la pensée, les influences sur la biologie, sur les transmissions neuronales, de l'émotion, de la mémoire, de l'activité intellectuelle. Donc il y a 90 centres de recherche en Europe qui travaillent sur ce sujet. Pour une fois, pardon, les Américains se sont fait doubler par les Européens. Donc, bien sûr, ils s'y sont mis aussi. Malheureusement, je ne pense pas que je vais pouvoir...
Non, parce que tu n'es pas connecté.
Ah, il faut que je sois connecté. Oui. Bon, ben, c'est dommage. On a la connexion, mais on ne l'a pas fait.
Oui.
Bon, on le passera tout à l'heure. Les trois petits films qu'on a pris, ils durent chacun 2 minutes. C'est donc le directeur de la santé américain qui explique ce que c'est que le projet Brain Initiative qui va permettre aux Américains, en compétition avec les Européens, de construire eux aussi un cerveau électronique et donc de travailler. Pour l'instant, il n'y a que des choses positives sur le fonctionnement, et grâce à ça, de traiter un certain nombre de maladies. Mais bien sûr, personne ne dit que toutes ces données, bien sûr, vont circuler et vont aller encore nourrir le big data. Mais alors, c'est quoi le big data ? Alors, troisième petit film, on avait trouvé une formidable explication dont je vous donnerai le lien est là, qui en fait est une petite truc de 3 minutes qui a été fait par France Télévisions, qui explique extrêmement bien ce que c'est le big data. En d'autres termes, le big data, c'est une grosse boîte dans laquelle entre, c'est-à-dire à chaque fois que vous allumez votre iPhone, votre ordinateur, il émet, il recueille des données, vous appuyez sur juste une touche, ça fait une donnée, et cette donnée, à travers un certain nombre de logiciels, Facebook, Twitter, tous ceux que vous utilisez au quotidien, va aller nourrir cette grosse boîte noire. Cette grosse boîte noire qui se situe sous forme de grands buildings dans plusieurs endroits du monde. Alors, ce qui se passe, c'est que jusqu'ici, vous avez bien compris que l'intervention humaine, on n'en entend pas parler. La seule intervention humaine dont on a parlé jusqu'ici, c'est nous-mêmes qui, par notre activité, mettons des données en circulation. Mais donc, il y a des algorithmes qui, recevant quotidiennement des milliards et des milliards et des milliards de bytes d'informations, les rangent par catégorie et, à partir de ces catégories, les met à la disposition. Et donc, le petit cercle bleu que vous avez en bas, qui s'appelle Results, c'est là que se situe évidemment tous les enjeux du pouvoir et tous les enjeux du commerce. C'est celui, l'institution ou le gouvernement qui possède ça, qui va pouvoir contrôler l'ensemble du système. Alors, la santé, aujourd'hui, fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que que ce soit chez votre médecin, où il rentre un certain nombre de données pour la sécurité sociale, pour votre dossier, ou que ce soit vous envoyez votre photo très en forme, au contraire, avec une grosse écharpe et un bol dans lequel il y a un grog sur Facebook, vous nourrissez, en fait, votre dossier médical. Et c'est ce dossier médical, donc, qui est en circulation auprès des institutions qui auront payé ou auprès des pouvoirs publics qui auront exigé d'une manière ou d'une autre, généralement par la loi, de pouvoir contrôler le résultat. Alors, ce big data, aujourd'hui, une fois qu'il a recueilli, stocké, comparé, analysé les données, il est une immense mine, c'est le plus grand gisement d'activité aujourd'hui sur la planète pour l'avenir. C'est que tout le commerce est lié, c'est-à-dire la connaissance de nos comportements va permettre aux institutions, aux entreprises commerciales de vous proposer des choses, comme Dima l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le moindre chose, votre insomnie, tout simplement parce que, peu importe la raison, vous avez bouquiné pendant une heure et demie dans votre lit pendant la nuit, hop, un laboratoire pharmaceutique va vous proposer de traiter vos insomnies, va vous faire de l'information, etc., etc. Vous réservez une chambre d'hôtel quelque part, hop, vous allez recevoir, vous le voyez avec booking.com, vous allez recevoir tout un tas d'informations, etc. Vous n'avez rien fait. Mais, voilà, le big data fournit à ces entreprises commerciales tout un tas d'informations pertinentes sur vous. Le dossier médical, bien sûr, c'est comme ça que en fait, j'avais appelé au départ cet exposé, c'est la mort du secret médical. Or, la mort du secret médical, c'est une question considérable pour chacun d'entre nous, puisque tout le territoire de notre intimité est aujourd'hui mis au grand jour sans notre autorisation. Sauf que tous les juristes le disent avec notre autorisation, puisque c'est nous qui les avons donnés. Et donc, il n'y a pas, on va voir, de moyen de contrôle, puisque à chaque fois que l'on se branche, nous fournissons volontairement, et pour les juristes donc, nous sommes responsables de ce transfert de données. Alors on peut toujours dire, non, c'est de l'exploitation de données de la vie privée, c'est pas bien, c'est vous mettez à nu mon intimité. Non, nous les mettons nous-mêmes. Mais dans un système dans lequel on ne sait plus faire autrement. Oui.
Sauf que on donne volontairement une information, pas forcément au destinataire souhaité. Oui.
C'est là que se situe oui. La possibilité de faire quelque chose. Mais on ne peut pas contester qu'en toute conscience, on allume son iPhone et que donc on donne de l'information. Alors, c'est autour de ça que dans le domaine de médical, c'est-à-dire dans le domaine de notre intimité, les enjeux sont considérables. Parce que bien sûr, n'importe quel employeur peut aujourd'hui avoir accès à votre séropositivité vis-à-vis de tel ou tel virus. N'importe quelle compagnie d'assurance peut savoir que vous avez eu tel ou tel problème. N'importe quelle banque peut savoir, avant de vous prêter de l'argent, à combien elle va vous prêter parce que vous représentez un plus ou moins grand risque. Donc, voilà un marché gigantesque. À la limite, on pourrait dire que c'est une évolution du capitalisme international, mais ça touche votre vie privée. Ça nous touche tous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme outil pour lutter contre ça ? On a un outil formidable que tous les pays du monde ont signé. C'est une tellement belle déclaration qui date de 1774 puis de 1792. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui punit tous ceux qui vont aller rechercher des informations de la vie privée, de la famille, du domicile, de la correspondance d'un autre individu. Sauf que les moyens qui entrent dans cette manière de voir les choses n'existent pas. On n'a aucune prise sur la manière dont notre correspondance peut être lue. L'autre, c'est plus précis déjà, c'est l'Europe en 1997, l'Union européenne, qui a fait un article particulier sur la confidentialité des communications. Donc, aucune personne n'a le droit d'utiliser, sans le consentement de celui qui les a données, les communications, le contenu des communications qu'il a eues avec d'autres personnes. Sauf que, qui va punir qui, comment, on n'a pas de prise sur une déclaration qui reste pour l'instant une déclaration d'intention.
Le secret médical a lui aussi été élargi, il date de 1810, il a été élargi en 2012 en France, obligeant le médecin à protéger de toute indiscrétion tous les documents qu'il a. Sauf que lui-même, il les met dans un ordinateur pour le dossier de la sécurité sociale. Donc c'est complètement surréaliste. Clairement, dans l'énoncé du secret médical, il est dit que c'est pour protéger le patient contre les assureurs, les employeurs, les organismes de crédit, mais de fait, on n'a aucun moyen de les protéger. Le serment d'Hippocrate, déjà il y a 2300 années, insistait sur l'importance de la discrétion concernant les données de santé personnelle, sur l'intimité. Alors, avec tout ça...
Il y a les organismes de régulation qui peuvent s'auto-saisir, qui seront saisis, européens, où chaque pays en dispose, type CNIL chez nous, qui
oui.
Actuellement ira faire...
Alors, on a relu tous les deux le dernier rapport de la CNIL sur ces questions. C'est à pleurer de banalité, de généralité, de bonnes intentions, mais il n'y a rien. Aucune mesure n'est proposée.
Il y a quelques... tous les ans, vous avez quelques punis.
Quelques punis, oui.
Oui, mais c'est rien.
Alors... Entre utopie et dystopie, regardons la connexion de ce qu'on appelle le M-santé. Il y a de l'utopie. Il y a clairement une amélioration des capacités de surveillance et de suivi des patients. Il y a un raccourcissement extraordinaire. Un trouble du rythme se produit chez quelqu'un qui est au cinéma. L'ordinateur va l'enregistrer. Le cardiomobile, c'est ce qu'on a en Suisse, mais on va dire ici le SAMU, va pouvoir se rendre tout de suite, on va gagner un temps fou. Donc, il y a du bénéfice à la M-Santé. Il y a un meilleur confort pour le patient, clairement. Il est chez lui, il y a tout un tas de choses qui peuvent être réglées depuis le CHU directement par un système de connexion très simple. Donc, il y a un meilleur, il y a un avantage évident pour le patient. Et puis, dans tous les textes sur l'économie, ça provoque une diminution des coûts, un raccourcissement de l'hospitalisation, une diminution des besoins en personnel. Donc, voilà un système qui améliore la qualité des soins, améliore le confort du patient et qui coûte moins cher. Qui n'en voudrait pas ? Donc, le regard utopique, il est que la M-Santé, c'est très positif. C'est un progrès, ça nous apporte beaucoup de choses. Et puis il y a le regard dystopique. Le regard dystopique, c'est ce que certains appellent la normopathie, c'est-à-dire cette nouvelle culture qui consiste à se rapprocher le plus possible d'une norme, que la norme soit la moyenne de toutes les données ou que la norme soit imposée par... entre autres la santé publique, les assurances maladie, on tend de plus en plus vers un homme standard, un homme parfait, si on rejoint toutes les dérives possibles de l'eugénie. On va donc déclencher un nouveau monde qui va être que chacun va pouvoir se comparer avec les autres et décider s'il va changer son comportement, non pas en fonction de ce qu'il pourrait ressentir comme bon ou mauvais pour sa santé, mais par rapport à une norme imposée par les autres. Donc, on est bien dans ce que il m'a présenté tout à l'heure de Orwell, je crois, c'est que la standardisation supprime la liberté. Alors, il y a aussi, bien sûr, dans la vision dystopique, il y a la disparition donc, de l'intimité, qui est ce qui nous reste comme libre choix. Les actes de malveillance, je vous en ai donné deux exemples tout à l'heure. Plus on centralise des données de santé, et en particulier plus on centralise le contrôle d'outils de santé, plus le risque qu'au centre, il se passe un acte de malveillance. tout simplement un hacker mal intentionné et grand. Voilà. Alors, on en arrive à, dans la société dystopique, à ce que, bah, finalement, l'employeur, les compagnies d'assurance, les organismes de crédit, vos voisins, votre commerçant où vous allez acheter vos affaires, ils ont une idée, tous, de ce qui est votre santé et ce qui pourrait être bon pour vos santé. Alors, on peut imaginer que Eva et quelques autres appareils vont intégrer aussi toutes ces données. Et votre frigidaire va dire, mais tu as mangé trop de salade hier, aujourd'hui il faut que tu manges des cacahuètes ou je ne sais pas quoi. Bref, la grande tendance dystopique, c'est ce qu'on appelle le totalitarisme hygiéniste, c'est-à-dire on en revient au 19e siècle, voilà, il fallait que l'homme soit hygiénique dans ses comportements. Ben, aujourd'hui, l'homme n'a même plus à décider s'il est hygiénique ou pas. À chaque fois qu'il donne une donnée de lui-même, le big data va lui répondre par l'algorithme dans lequel il va rentrer que pour être un homme, un humain parfait, il va falloir avoir tel ou tel type de comportement. On est bien dans le totalitarisme. Voilà, pour finir, maintenant, je vous donne cet exemple parce que on vit en Suisse une situation que vous ne connaissez pas en France, vous ne savez pas la chance que vous avez d'être en retard sur d'autres pays. En Suisse, aujourd'hui, le secret médical a été aboli, de fait, puisque vous ne pouvez pas accepter quelqu'un à l'hôpital si sa compagnie d'assurance ne sait pas pourquoi, quel est le diagnostic d'hospitalisation, pourquoi la personne est venue, quel est le projet de soins, quel est son environnement social, et que si le médecin conseil ne reçoit pas tout ça, il ne donne pas dans l'ordinateur l'accord de l'assurance pour que vous soyez hospitalisé. Donc vous n'avez même plus de marge de manœuvre. Si aux États-Unis, vous restez, malgré la loi Obama, encore dehors si vous n'avez pas la carte de crédit pour pouvoir payer vos deux premiers jours d'hospitalisation. En Suisse, bien sûr, c'est beaucoup plus pervers et hypocrite. C'est-à-dire, il faut que vous nourrissiez le système central suisse des assurances pour obtenir le top, qui est automatique, qui est donc l'ordinateur de l'hôpital a bien l'accord de l'assurance que vous pouvez être hospitalisé. L'autre chose qui est incroyable et qui existe maintenant depuis 3 ans, c'est que le gouvernement a donné son accord pour que les compagnies d'assurance puissent piocher directement dans le dossier médical que chaque médecin rédige. Donc la société dystopique, ce n'est pas après-demain, c'est aujourd'hui. Voilà, alors c'est toujours intéressant, comme on vous le dit depuis la dernière fois, de relire... en particulier Huxley, je vous conseille, pour ceux qui ne l'ont pas vu, le retour sur le meilleur des mondes, qui est très dans la santé, on en reparlera encore la prochaine fois, où on voit bien que les formes dystopiques, les formes de totalitarisme, vues dans la pensée de Huxley, ne sont pas le nazisme ou le stalinisme, c'est la subtilité, ce n'est pas la violence, c'est changer les comportements jusqu'à ce que l'on fasse, comme dans Le meilleur des mondes, que le bonheur imposé devient le bonheur désiré. Dernière image et notion, c'est bien sûr, Ima en a parlé tout à l'heure, c'est M. Watson. Donc je pense que certains d'entre vous ont entendu parler de M. Watson. Watson, c'est ce projet mis en place par IBM, qui fait que Watson est probablement l'outil aujourd'hui le plus sophistiqué de digestion de toutes les données du big data. Et donc Watson vous propose de out-thinker, c'est-à-dire de penser pour vous. Et donc Watson est vendu comme un outil pour les entreprises qui va intégrer toutes les données dont l'entreprise a besoin et qui va penser pour l'entreprise. Et là, dans la pub, si vous arriviez à lire, vous verrez qu'il est dit que pour sa propre créativité personnelle, pourquoi accumuler tant de données alors que Watson va le faire pour vous? Alors, on est là dans l'aide à la pensée, donc bien sûr, on voit bien comment l'aide à la pensée peut être
évidemment orienté en fonction de, d'intérêts. Finalement, encore une fois, Huxley est très visionnaire, puisqu'il il dit et il redit ce que nous on dit aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas la science qui est en cause en elle-même, ni la technologie, c'est la manière dont on l'utilise. Et il introduit déjà, Huxley, l'idée que c'est deux choses à la fois, c'est-à-dire une chose positive et une chose négative. Et que c'est, comme toutes les addictions, c'est ça qui rend les choses très compliquées, c'est-à-dire que de prendre son iPhone, c'est un plaisir, parce qu'on va avoir des réponses aux questions qu'on se pose, on va les avoir, on va les avoir immédiatement, et en même temps, c'est des menottes supplémentaires qu'on se met soi-même. Et pour finir, donc, quelques questions pour le débat tout à l'heure. Il est clair que la question de l'intimité est posée par le M-Santé, l'industrie M-Santé. Notre espace personnel diminue. Il diminue pour beaucoup volontairement. Je m'expose sur Facebook comme si je ne parlais qu'à mes amis. Sauf qu'en m'exposant sur Facebook, je donne des informations sur moi à tout le monde. Question posée effectivement par un certain nombre, c'est est-ce qu'on pourrait sanctuariser, c'est-à-dire rendre non, par des systèmes de cryptage, non consultable une partie de nos données personnelles. Oui, je pense que la question de l'employeur, de l'assureur et de la banque c'est une question fondamentale parce que finalement, si je ne veux pas dire à mon employeur que je suis VIH positif, c'est mon droit le plus strict de ne pas le dire. Or, je ne peux plus le dire, puisque par recoupement, on le sait. Et puis enfin, donc sur la question des normes, il est clair qu'on est dans une période où nos normes sont en train de changer. Notre manière même de nous adresser au monde de la santé est en train de changer. La question, c'est de savoir si on a toujours besoin de professionnels de santé, tels qu'ils sont aujourd'hui, puisque la digestion du big data se fait grâce à des algorithmes qui eux-mêmes génèrent des algorithmes et qu'à la fin, vous n'avez même plus besoin, vous dites juste j'ai de la fièvre et votre frigidaire va vous dire il y a une petite place pour toi, là il fait frais, rentre et reste 2 heures avec moi. Donc voilà, on est sans faire du tout de la science-fiction dans la réalité d'aujourd'hui, c'est ce qu'on a voulu vous montrer tout de suite, c'est... l'atmosphère est au changement, mais un changement qu'on ne peut pas, sur lequel on ne peut pas réfléchir seulement négativement, avec des images que c'est un régime totalitaire qui s'installe, parce qu'il y a aussi des tas de choses positives dans ce qui se passe. Alors, voilà, on est face à une vraie addiction. Un verre de champagne, c'est très bon. De la coke, ça, des tas de gens trouvent ça excellent, mais ça fait, entre guillemets, ça provoque des dégâts. Et on est dans un regard métaphorique qui ressemble à celui-là.